Bonsoir ou peut-être bonjour, ici à Paris il est 20h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des faits, des analyses, des commentaires, c'est RFI Soir qui commence par un journal. Israël va frapper tous les sites du régime en Iran, déclare Benjamin Netanyahou. Aux États-Unis, une élue et son mari assassinés par balle dans le Minnesota. Et en cyclisme, Tadej Pogacar s'adjuge l'étape reine du Dauphiné et conforte son maillot jaune. Benjamin Netanyahou est inflexible et va en guerre. Le premier ministre israélien prévient que son armée va frapper tous les sites du régime en Iran. D'ores et déjà, dit-il, les frappes ont porté un véritable coup au programme nucléaire de la République islamique. De son côté, le président iranien avertit d'une riposte plus forte en cas de poursuite des frappes israéliennes. Massoud Pezeshkian a fait cette déclaration lors d'un appel avec le premier ministre pakistanais. Les bombardements ont continué aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. En Israël, les sirènes d'alerte aériennes, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem, ont forcé les habitants à se réfugier dans des abris. Un quartier résidentiel de Rishon LeZion au sud de Tel Aviv a été touché par un missile iranien la nuit dernière avec deux victimes et des blessés. Alice Moreno s'est rendue sur place pour RFI.
Des ouvriers sont à pied d'œuvre pour tenter de rétablir les réseaux d'électricité. Des éclats de verre, des gravats, des carcasses de voitures. Dans la rue où le missile est tombé, plusieurs maisons sont complètement détruites. Tammy vit à quelques centaines de mètres.
C'est près de ce quartier, à environ 500 mètres. Le son était vraiment comme un gros boom, à tel point que j'ai cru que c'était dans ma maison.
La famille, les amis des sinistrés affluent pour les aider.
J'ai un ami qui vit ici et bien sûr, la nuit dernière, comme vous le savez, la situation était très difficile. Alors lui, sa maison n'a pas subi trop de dégâts, donc on est là plutôt pour venir le soutenir psychologiquement.
Yovan est venu aider sa mère à plier bagages. Sa maison est située à une centaine de mètres du lieu de l'impact. Tout l'intérieur a été soufflé par la bombe.
J'ai reçu un appel de ma mère. Elle vit seule ici. Elle était complètement terrifiée. Elle pouvait à peine parler.
Sa mère a survécu en se réfugiant dans un abri. Les sinistrés dormiront ce soir chez des proches ou à l'hôtel, inquiets à l'idée que l'Iran frappe Tel Aviv une nouvelle fois. Alice Moreno, Tel Aviv, RFI.
En face, en Iran maintenant, le Croissant Rouge affirme qu'une frappe israélienne contre une ambulance a fait 2 morts au cours de ces dernières heures. La population est sous le choc après cette attaque massive d'Israël qui a fait plus de 70 morts au total, frappée entre autres le cœur de la capitale. Mehdi Zakarian est professeur à l'université de Téhéran. Il a été réveillé en pleine nuit par les bombardements et a pu voir un des bâtiments de son quartier touché. Après des années d'isolement et de conflit, il exprime la lassitude des Iraniens et appelle son gouvernement à tout faire pour mettre fin à cette guerre.
Il y a une haine contre la guerre, c'est-à-dire les peuples iraniens, ils sont bien fatigués de la guerre, des conflits, parce qu'après la guerre de 8 ans avec l'Irak, alors ça suffit pour les Iraniens, ils veulent que ça termine un jour. On attendait seulement les négociations, c'est-à-dire de la part des Iraniens. On demandait au gouvernement de faire en accord avec les autres. Donc, il faut choisir maintenant. C'est l'appui de la guerre ou c'est l'appui de la paix. Moi, je ne dis pas la paix avec l'Israël, mais une paix durable avec toute la communauté internationale. Et de jouer un rôle positif dans la communauté internationale.
Alors ce professeur joint à Téhéran par Sébastien Farsi. Israël justifie ses attaques par la crainte de voir l'Iran se doter de la bombe atomique. Et Emmanuel Macron vient de demander au président iranien de revenir rapidement à la table des négociations. Le président français dit aussi que les Français en Iran et dans la région ne doivent en aucun cas être visés. Pour sa part, l'Iran accuse Israël d'avoir sapé les pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis en attaquant son territoire. Et puis, il y a parmi les nombreuses réactions dans le monde, celle du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui met en garde contre le risque d'une guerre dévastatrice entre Israël et l'Iran. Lors d'un entretien téléphonique avec le dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman, il a dit que la région ne peut tolérer une nouvelle crise et qu'une guerre dévastatrice pourrait créer des vagues de migration irrégulière vers l'ensemble des pays de la zone. À savoir également que Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump sur le Moyen-Orient et sur l'Ukraine. La défense civile de la bande de Gaza annonce par ailleurs la mort de 41 personnes dans des opérations israéliennes, dont 23 tués. tuées alors qu'elles attendaient des distributions d'aide alimentaire. Des mobilisations en France pour la Palestine à l'appel de nombreuses organisations ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Paris, entre la place de la République et la place de la Nation. Et puis Emmanuel Macron a annoncé que la réunion co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite prévue à l'ONU le 18 juin, qui devait permettre d'avancer vers la reconnaissance d'un État palestinien, est reportée. Et cette situation inquiète au congrès du Parti Socialiste qui se tient ce week-end à Nancy, Valérie Gasse.
C'est de Paul Magnette, le président du Parti Socialiste belge, que la plus sévère charge contre Emmanuel Macron est arrivée. Invité d'une table ronde sur les questions internationales, il a regretté le recul du président de la République.
Je regrette surtout la versatilité du président Macron. Il avait pris une initiative qu'on pouvait saluer de cette conférence aux Nations Unies qui devait conduire à la reconnaissance de la Palestine. Mais malheureusement, en moins de 24 heures, il a abandonné ses propres plans. Et si chaque fois ceux qui prennent ces initiatives reculent, on donne raison à Netanyahou.
Le premier ministre israélien qui est aussi critiqué par la députée Diana Badiop, proche du premier secrétaire Olivier Faure.
Il faut continuer à dire à Benjamin Netanyahou que même si l'Iran est un régime qui ne nous convient pas, il ne faut pas continuer de violer le droit international et ça, nous ne l'accepterons pas.
Tonalité différente dans le camp de Nicolas Mayer-Rossignol, l'adversaire d'Olivier Faure. Le sénateur Patrick Kanner insiste, lui, sur le danger représenté par l'Iran.
Un danger permanent qui dépasse finalement la question de la solution à deux États, c'est que l'Iran aujourd'hui est un élément de déstabilisation de toute la région.
Parmi les militants, Jaïm ne voit pas d'issue au conflit.
Une réponse militaire ne sera pas la solution et aujourd'hui, ça isole encore plus, je pense, Israël.
La politique de Benjamin Netanyahou est au cœur des critiques. Un cadre socialiste estime qu'on ne doit pas lui donner un laissez-passer. Valérie Gasse, Nancy, RFI.
Et nous y reviendrons demain à cette même heure dans Dimanche Politique sur RFI. Plus de 60 policiers ont été blessés en Irlande du Nord où des manifestants se sont rassemblés sous des mots d'ordre hostiles aux immigrés. Des cocktails Molotov et des feux d'artifice ont été lancés sur la police anti-émeute. Aux États-Unis, dans le Minnesota, une élue et son mari ont été tués et un autre a été blessé dans un acte de violence politique, comme l'a qualifié le gouverneur de cet État. Le suspect est en fuite, activement recherché. Ce double assassinat intervient dans un climat politique particulièrement tendu aux États-Unis. Donald Trump a mobilisé des milliers de militaires face à des manifestations contre sa politique migratoire à Los Angeles. Et dans les heures qui viennent, de grandes manifestations sont organisées pour s'opposer à cette politique. Le président doit, lui, assister à un défilé militaire à Washington, le premier depuis une trentaine d'années. Officiellement, l'événement est censé marquer le 250e anniversaire de l'armée, mais c'est aussi le 79e anniversaire du président, Lou Nanaki.
Oui, et l'armée s'attend à plus de 200 000 personnes pour cette parade historique, près de 7 000 soldats, 150 véhicules dont des chars, plus une cinquantaine d'avions et d'hélicoptères vont défiler. L'événement est censé effectivement représenter les différentes périodes de l'armée américaine. Certains soldats, par exemple, porteront des uniformes de la guerre de sécession, d'autres des guerres de Corée ou du Vietnam. Le président Trump va prendre la parole et les festivités se termineront par des concerts et des feux d'artifice si la météo le permet.
Alors, cette parade est diversement appréciée.
Oui, effectivement, parce que même si officiellement il s'agit de célébrer l'armée, c'est aussi l'anniversaire, vous l'avez dit, de Donald Trump. On sait que le président a toujours eu envie de son propre défilé militaire. Il faut savoir que ces célébrations de l'armée sont en préparation depuis 2 ans et aucun défilé n'était prévu jusqu'à l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche. Ce défilé intervient aussi, vous l'avez dit, à un moment de forte tension avec les manifestations contre la politique migratoire de l'administration. Des manifestations anti-Trump ont lieu en ce moment dans tout le pays et cela intervient aussi après les vastes coupes budgétaires imposées par le président. Ce défilé militaire va coûter jusqu'à 45 millions de dollars et ça, eh bien, ça a du mal à passer auprès de certains. Selon un sondage, 6 Américains sur 10 estiment que c'est du gaspillage.
Donc j'ajoute, Luna Anaki, que Donald Trump avait eu l'idée de ce défilé militaire après avoir assisté au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'était lors de son premier mandat. Dans l'actualité du monde, 26 corps retrouvés 3 jours après le naufrage survenu dans le nord-ouest de la RDC. Un premier bilan officiel faisait alors état de 40 morts. Ce naufrage de 3 grandes pirogues attachées a eu lieu sur le lac Tumba. Le convoi de plus de 200 personnes a été confronté soudainement à d'importantes vagues. Dans le centre du Nigeria, il y a eu 100 de morts dans une attaque, de très nombreuses maisons incendiées. Cette région est en proie à une recrudescence de violence depuis plusieurs mois. Elles opposent des éleveurs peuls musulmans à des agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources. Il est 18h10 en temps universel. Venons-en maintenant à l'actualité sportive. Babacar Diarra du football avec la première Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Elle démarre la nuit prochaine à Miami, aux États-Unis.
L'occasion de revoir Lionel Messi, l'Argentin capitaine de l'Inter Miami, opposé aux Égyptiens de l'Al Ahly du Caire en ouverture au Hard Rock Stadium. Cette compétition inaugurale va réunir des équipes de tous les continents, comme celle des Floridiens, fondée en 2018 et propriété de la star anglaise David Beckham. Toujours vierge de palmarès, malgré sa puissance marketing, l'Inter Miami doit profiter de cette exposition pour se faire un nom, et c'est l'espoir de son entraîneur argentin Javier Mascherano.
C'est une compétition que nous allons jouer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un honneur pour un club comme l'Inter Miami, qui est une jeune équipe, de pouvoir jouer face à de très grands clubs qui ont une histoire et un palmarès important. Je pense que c'est une source de motivation et une opportunité qui nous permet de profiter un maximum du tournoi et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes.
Inter Miami à l'Ahly du Caire, ça commencera à 0h temps universel. Demain à 19h, le mythique stade Rose Bowl de Pasadena accueillera la première sortie du Paris Saint-Germain, le champion d'Europe, dans le mondial des clubs. Ce sera une affiche face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann.
Le football en France et l'Olympique de Marseille qui tient sa première recrue du mercato estival.
Un Anglais, C.J. Egan Riley. Il arrive tout droit de Burnley après avoir convaincu les dirigeants phocéens lors de sa dernière saison en deuxième division anglaise. Défenseur central de 22 ans, il a signé son contrat en Slovaquie où il dispute en ce moment l'Euro Espoir avec l'Angleterre.
De l'athlétisme avec le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui s'est montré rassurant sur notre antenne tout à l'heure.
Le champion du monde du triple saut était dans nos locaux pour faire le point sur la dernière saison de sa carrière. C'était dans l'émission Mondial Sport. Âgé de 32 ans dans une dizaine de jours, Zango a prévu de se retirer à l'issue des mondiaux de Tokyo en septembre prochain. Sa montée en puissance est lente avec des sorties plutôt moyennes jusqu'à présent. Il sort par exemple d'un triple bond à 16,56 m lors du meeting d'Oslo, très loin de son record d'Afrique de 18,07 m. Mais Hugues Fabrice Zango l'assure, il sera prêt le jour J.
Mon barreau d'honneur, c'est gagner Tokyo. C'est... Bon, certains diront que c'est prétentieux de le dire comme ça, alors que je viens de sauter 16,50 et tout ça, mais on est à 3 mois de l'échéance, quoi. Et là, j'ai repris les entraînements il y a à peine 3 semaines. Je pense que Tokyo, je serai largement prêt, mais déjà dans un mois, ça sera déjà tellement différent, hein? Ça sera déjà tellement différent. J'aurais déjà fait un autre cycle de puissance et tout. Je pense que il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau et on sera prêt pour Tokyo. Et Tokyo a une revanche à prendre, quoi, sur cette piste-là.
Les ambitions intactes d'Hugues Fabrice Zango, interrogé par Hugo Moissonnier dans le cadre de l'émission Mondial Sport, à réécouter en intégralité sur RFI.fr.
C'est bien noté, Babacar Diarra.
RFI Soir, Philippe Caplin.
Revenons sur cette guerre qui a commencé entre Israël et l'Iran avec vos analyses et vos commentaires. Bernard Ourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre de Recherche sur le Monde Iranien. Alors, le premier ministre israélien vient de dire que son armée va frapper tous les sites du régime en Iran. Et de son côté, le président iranien avertit qu'une riposte plus forte en cas de poursuite des frappes israéliennes. Pas de répit donc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une escalade et qu'une guerre est en train de commencer?
La guerre, c'est un fait. La question est-ce qu'il y a deux partenaires? Comme à Gaza, il n'y a qu'un partenaire, il n'y a personne en face. Le Hezbollah, le Hamas a disparu militairement. Et l'Iran, aujourd'hui, est extrêmement affaibli, n'a pas d'armement sophistiqué et moderne. Et malgré les missiles qu'il peut envoyer sur Israël, il l'a montré hier soir, quelques dizaines de missiles facilement interceptés, l'Iran n'a pas les moyens de répondre à la guerre. C'est donc la question politique qui se pose. Et de ce point de vue-là, cette guerre dissymétrique avec Israël qui sème un peu le chaos, qui a l'intention de toucher toutes les cibles. Le nucléaire n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'un élément. Toucher tous les sites de missiles, mais aussi les infrastructures économiques de l'Iran et les questions politiques. Donc on est en face d'une guerre, effectivement, mais une guerre asymétrique.
Oui, asymétrique, dissymétrique, d'autant que Israël a le soutien manifeste de Donald Trump dans sa campagne militaire contre l'Iran. C'est ce que vient déclarer le Premier ministre israélien également. Benjamin Netanyahou s'exprime dans un message vidéo en anglais adressé au président des États-Unis. Pas de condamnation américaine donc, mais un soutien qui donne finalement les coups des franches à Israël.
Oui, et ça peut surprendre parce que Donald Trump ne voulait absolument pas d'une frappe contre Israël parce qu'il voulait essentiellement négocier avec l'Iran un nouvel accord sur le nucléaire et les choses étaient très bien avancées et la prochaine réunion devait avoir lieu demain. Et donc cette opération a été faite contre Trump et contre Macron à la fois. Il y avait deux dossiers importants. Et il faut comprendre pourquoi c'est apparu aujourd'hui. Le problème nucléaire iranien, il a 30 ans. C'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence particulière. Et les menaces, elle a toujours été là, mais c'est une menace, ce n'est pas un acte. Il n'y avait pas contre une décision qui était de reconnaître la Palestine dans une conférence à New York dans quelques jours, à l'initiative du président Macron et du prince héritier saoudien. Et l'autre côté, Trump qui voulait un accord sur le nucléaire. Et l'Israélien ne voulait ni l'un ni l'autre. Et donc, Netanyahou a lancé cette attaque pour briser à la fois les perspectives politiques au niveau de Gaza et briser les perspectives régionales que l'Iran retrouve une place normale dans la région, ce que ne veut pas Israël, qui veut garder le monopole de sa domination.
Dans ces conditions, pourquoi Donald Trump, qui dit avoir été prévenu à l'avance des frappes israéliennes, n'a pas opposé son veto, n'a pas dit à Benjamin Netanyahou, n'y allez pas?
Parce que autour de Trump, Trump n'est pas quelqu'un de fort. Trump est un battleur. Il dit oui, il dit non, il dit oui. Il va humilier Zelensky, il va dire qu'il va le soutenir ensuite. Donc il a dans son camp des gens qui veulent la peau des Iraniens de façon traditionnelle, comme Netanyahou. D'autres qui disent que ce n'est pas rationnel. Si on veut que l'Iran est un pays riche et important et nécessaire à la stabilité du Moyen-Orient et à la reconstruction, on ne peut pas avoir, il faut avoir l'Iran avec soi. Et donc ces deux camps sont là. Et tantôt Trump dit « ne frappez pas », mais si les Israéliens frappent, ils disent « bon, admettons la chose ». Et donc c'est l'incertitude de Trump et le fait qu'il n'a pas de politique. Et c'est ça qui est très important. Dans la région, il y a encore 20 ans, les États-Unis faisaient la loi. Aujourd'hui, on se rend compte que Trump est faible, les États-Unis sont faibles et obéissent à Israël. Et donc par rapport pour l'Égypte, pour la Jordanie, pour la Turquie, pour l'Arabie Saoudite et les Émirats, il y a un changement de géopolitique très important. Désormais, c'est Israël qui domine le Moyen-Orient, ce qui peut poser des problèmes.
Bernard Oukad, directeur de recherche au CNRS, vous l'avez évoqué il y a de cela quelques instants, il y avait la diplomatie à l'œuvre pour régler la question du nucléaire iranien. Alors, sur le moment choisi par Benjamin Netanyahou pour lancer cette opération, qui a donc été préparée de longue date, est-ce qu'on peut dire qu'Israël attendait le bon moment, sachant que l'Iran a été affaibli ces derniers mois? Est-ce que c'est ça le processus et le calendrier?
Tout à fait. L'Israël a prévu depuis 30 ans de démolir le système nucléaire iranien, de s'opposer à la République islamique, ce n'est pas nouveau. Mais il fallait encore que les opportunités soient là. Tant qu'il y avait en Irak une population ou un gouvernement qui n'était pas contrôlé par les États-Unis, et surtout qu'en Syrie, le gouvernement est tenu par Bachar el-Assad, soutien des Iraniens, et que le Hezbollah existait, il était impossible à Israël d'attaquer l'Iran. Désormais, le Hezbollah est tombé, Bachar el-Assad est tombé, les proxys en Irak ne sont plus aussi efficaces, et seuls les Houthis, qui sont très marginaux, continuent d'exister. Autrement dit, Israël avait un boulevard. L'Iran n'est plus défendu par ses proxys, tous les alliés de l'Iran sont tombés, l'Iran est nu. Et donc, c'est facile de faire une parade militaire. L'Iran, Netanyahou a fait un carton. Les avions sont arrivés, ils ont bombarder ce qu'ils ont voulu, aucune résistance. Et donc, c'est une situation exceptionnelle dont les Israéliens ont profité. Mais pourquoi faire? La question, c'est bombarder l'Iran, d'accord, on peut tout détruire, et après?
Non, mais là, en l'occurrence, c'est plusieurs sites nucléaires, notamment le site d'enrichissement de Natanz qui ont été frappés. Ce qui fait dire à Benjamin Netanyahou, il y a de cela quelques heures, que les frappes ont porté un véritable coup au programme nucléaire de la République islamique. Est-ce que ça veut dire qu'il a réussi son coup, justement, et que c'est un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien?
C'est le contraire, c'est pour le rebooster. Parce que un pays comme l'Iran, qui est très nationaliste, qui défend ses frontières, avec un gouvernement qui est affaibli, qui est en difficulté, les Iraniens, pour la première fois, se sont agressés. Et donc, ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution. On nous agresse alors qu'on n'a rien demandé, on n'a rien fait. On a assez insulté les Iraniens, le gouvernement islamique a fait cela, mais ce n'est pas notre problème. Donc, aujourd'hui, il n'y a d'autre solution que de se lancer dans le nucléaire, est le vrai. On peut détruire les sites nucléaires, les Iraniens ont la technologie, ils ont un savoir-faire. Un savoir-faire, ça ne se détruit pas. Autrement dit, ils ont tué 6 ingénieurs, une vingtaine de généraux, ça se remplace facilement. Et l'Iran est un pays de 92 millions d'habitants. Et au contraire, l'attaque israélienne renforce le régime islamique qui était en très mauvaise passe et qui là va pouvoir dire « je défends la patrie, je défends l'Iran ». Et donc, le nucléaire est un élément pour ce nouveau gouvernement de puissance, et ça, c'est inquiétant.
Une dernière question, est-ce que la bande de Gaza est devenue un théâtre d'opérations secondaire pour Benjamin Netanyahou et son armée?
C'est le but du jeu, oublier la Palestine. Il faut savoir que le nucléaire iranien a été lancé à partir de 2003-2004 comme un problème essentiel, existentiel pour Israël. J'ai souvent été en discussion de ce point de vue-là, pour dire, regardez, la menace elle vient d'Iran, ne touchez pas à la Palestine. Et la colonisation s'est faite de la Cisjordanie. Et c'est grâce à la menace iranienne fantasmée qu'on n'a rien pu dire contre l'annexion de la Cisjordanie et l'opération à Gaza. Autrement dit, à nouveau maintenant, l'Iran apparaît comme un moyen de faire oublier Gaza et les crimes qui ont été commis. Et c'est ça qui, moralement, pose un vrai problème, qui va se retomber contre Netanyahou un de ces jours.
Merci pour vos commentaires et la pertinence de vos analyses, Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS, au Centre de Recherche sur le Monde Iranien. Vous écoutez RFI Soir, il est pile 20h passé de 21 minutes.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Concernant la guerre que Israël mène à Gaza, il y a cette polémique en France sur certains propos dits dans les médias. À Amaury de Rochegonde, des collectifs de journalistes font donc entendre leur voix.
Oui, cette fois, les sociétés de journalistes et les syndicats du groupe RMC-BFM ont réagi publiquement. Ils ont réclamé jeudi le retrait de leurs antennes de la chroniqueuse Barbara Lefebvre en raison de ses déclarations haineuses, je cite, sur Gaza. Cette enseignante et essayiste n'est pas une inconnue de la rédaction. En avril 2024, elle avait déjà déclaré sur l'antenne que les gens du voyage n'avaient pas les codes de la civilisation et qu'il fallait les renvoyer, je cite, au pays des gens du voyage, ce qui avait valu une mise en garde de l'ARCOM. Cette fois, c'est un ensemble de propos qui est en cause, d'abord sur i24 News en février, où elle a estimé qu'il fallait vider la bande de Gaza et que les civils de Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique, et que cela devra être payé au prix fort. Une sorte d'incitation au nettoyage ethnique qui avait entraîné sa convocation par la direction de RMC. La chroniqueuse avait été suspendue une quinzaine de jours, et voilà que le 20 mai, elle s'est vantée d'avoir assisté à un concert du chanteur israélien Eyal Golan qui appelle à effacer Gaza. Pour la société des journalistes de RMC, on ne peut plus parler de dérapage malencontreux, mais bien d'apologie de crimes de guerre.
Et puis Barbara Lefebvre a participé, c'était fin mai, à un gala de soutien à l'armée israélienne.
Oui, dans ce gala organisé par le publicitaire Franck Tapiro, elle a animé un jeu concours où il s'agissait de deviner la proportion de Gazaouis tués par rapport à la population. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à participer à ce gala puisque Laurence Ferrari de CNews et Europe 1 en était l'invité d'honneur et on pouvait y retrouver aussi Franz-Olivier Gisbert du Point ou encore Gilles-William Goldnadel. Cet avocat et chroniqueur de CNews n'a pas caché le fond de sa pensée quand il a dit qu'entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo.
Alors, pour vous, ces déclarations sont le fait de chroniqueurs ou d'éditorialistes, pardonnez-moi.
Effectivement, on entend très souvent sur les chaînes d'infos privées des commentateurs qui ne sont que très rarement tournés vers la défense des Palestiniens. La flottille d'aide humanitaire avec Rima Hassan et Greta Thunberg a ainsi été suivie, mais aussitôt discréditée par Caroline Fourest sur LCI. Mais en même temps, les reporters de terrain, les spécialistes de l'international mesurent bien l'ampleur des crimes commis par Israël, y compris contre les journalistes, pour les empêcher de témoigner.
Sachant que 200 journalistes palestiniens ont perdu la vie depuis le début du conflit. En Ouzbékistan, une consoeur indépendante engagée a récemment été empêchée de sortir du pays pour recevoir un prix. Depuis des mois, Sharifa Madrakimova était victime d'intimidation et de pression du pouvoir. Son tort est d'avoir enquêté de manière engagée sur le sort des agriculteurs, forcés de planter du coton, secteur où perdurent des pratiques abusive. Sébastien Farcy.
C'était en février dernier. Sharifa Madrakhimova vient de publier une vidéo en ligne. Elle fait parler un agriculteur pourchassé par les autorités. Celui-ci avait en effet osé planter des fraises dans son champ pour agrémenter ses revenus, alors que le gouvernement lui impose de se concentrer sur le coton, une culture stratégique mais moins rentable. Tout de suite, les menaces arrivent contre Sharifa.
J'ai reçu une convocation de la police en charge de la lutte contre le terrorisme. Ils affirmaient qu'un fonctionnaire avait déposé plainte contre moi. C'était suspect car je n'avais jamais rencontré cette personne.
Grâce à un avocat fourni par une association, Sharifa a pu contester cette convocation et éviter une possible arrestation. Mais ce n'était pas la première intimidation. L'année dernière, elle a été attaquée par deux hommes proches du pouvoir. Cette fois, la police n'a pas enquêté. Pour Mida Niyazova, directrice du Forum ouzbek pour les droits de l'homme, les reporters sont des cibles régulières dans le pays.
Les autorités considèrent que les journalistes et les militants qui enquêtent sur les droits des travailleurs menacent la sécurité nationale. C'est pour cela que les policiers en charge de suivre les militants des droits de l'homme appartiennent au service de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.
En Ouzbékistan, l'État contrôle largement la presse et la télévision. La répression des journalistes indépendants s'était toutefois réduite avec l'arrivée d'un nouveau président en 2017, mais elle a repris depuis 3 ans. Surtout pour les reporters qui traitent de cette filière stratégique du coton, comme Sharifa Madrakhimova. Et c'est certainement pour cela qu'elle a été empêchée de sortir du pays. En mai dernier, elle devait recevoir un prix de l'ONG internationale Frontline Defenders, mais son passeport lui a été livré endommagé et donc inutilisable. Ces menaces n'entament cependant pas le courage de cette journaliste.
Quelqu'un doit diffuser les voix des personnes qui souffrent. Si tout le monde a peur de le faire, nous perdons le combat. Je le fais car on ne peut pas m'obliger à me taire. Et maintenant, je ne peux plus reculer. Ce prix a attiré l'attention sur moi. Quand il a été annoncé, j'ai constaté que j'étais surveillée par les autorités. Mais en général, je pense que cette attention internationale peut me protéger.
Lors de la remise de ce prix à Dublin fin mai, sa voix a bien été entendue. Sharifa avait enregistré un message vidéo qui a été diffusé sur grand écran lors de la cérémonie.
Sébastien Farcy dans RFI Soir. Du cinéma à présent avec un film qui revient sur 1962 et les accords d'Évian. 50 ans après que des militants du FLN aient été filmés, leurs visages ressurgissent dans un film documentaire à la fois enquête et hommage. Dans les mots qu'elles eurent un jour, le cinéaste Raphaël Pilosio redonne chair à des images muettes et fait parler l'absence. Un film sur la mémoire qu'a vu pour nous Elisabeth Le Quéré.
Quand au début des années 2000, Yann avait récupéré par hasard les images de 1962, la bande-son avait disparu.
À l'écran, elles sont 20 militantes, dignes et soudées, qui racontent leur vie pendant la guerre de libération et leurs espoirs pour l'Algérie indépendante. Mais la bande-son du film a disparu. 60 ans après les accords d'Évian, Raphaël Pilosio, héritant de ses bobines muettes, a voulu partir à la recherche de ses femmes.
Qu'est-ce qu'elles étaient belles et pleine de vie.
Ce moment de 62, c'est le moment de la sortie de prison, c'est le moment de la joie, de la victoire, de la lutte victorieuse. Et peut-être aussi, c'est le dernier moment d'un être ensemble, d'être dans une collectivité, dans un moment d'espoir fort.
Mais les hommes ont tout fait pour faire barrage aux jeunes femmes à ce moment-là.
Il y a celles qui racontent comment, une fois la révolution passée, les femmes ont disparu de l'histoire officielle, celles qui regardent les images et sourient sans commenter, tandis que d'autres refusent de parler. Le film assume cette fragilité, mais l'enjeu est là, montrer ce qui reste, malgré tout, faire œuvre de résistance au service d'une mémoire féminine et politique que le silence n'a pas réussi à effacer.
Elisabeth Le Quéré. Autre conséquence de ce qui se passe en ce moment au Proche et au Moyen-Orient, l'inauguration fastueuse du grand musée égyptien prévu le 3 juillet vient d'être reportée. Elle n'aura lieu qu'au dernier trimestre de cette année. Vous écoutez RFI, dans une minute, ce sera l'actualité sur le continent africain.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement Viva Tech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique ? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Un collectif de journalistes et de chercheurs a publié récemment une charte consacrée au traitement des migrations par les médias. Ce texte, intitulé « Charte de Marseille », liste 11 principes. Son ambition, transformer en profondeur la manière dont les médias abordent les questions migratoires. J'en discute avec deux de ses rédacteurs dimanche à 11h10 temps universel sur RFI dans l'atelier des médias.